Alors, attends. Pas de retour. T'as rien, moi j'ai rien.
Non, rien.
Non, non, on n'a pas de retour.
Ça va, ouais.
Non, non, y a rien.
Y a rien. Ah.
Je sais pas ce qui se passe.
On n'a pas de retour.
Mais tu en as besoin pour parler?
Oui.
Je sais pas. Je sais pas quoi faire.
Ben, attends, Roselyne. Si je parle, ça passe à l'antenne ou pas? Ah, bon, on fait comme si, alors. Bon.
Ouais, c'est pour
alors,
ça.
On va faire comme si. Tu, ben, renvoie le générique une fois. Non, je continue? Bien, alors on va dire bonjour, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent fidèlement. On a des petits problèmes techniques de démarrage des installations techniques du studio. On n'a pas de retour, par exemple. Moi, on est, habituellement, on est sous notre casque, on n'a pas de retour en tête. Donc on espère que les auditeurs entendent bien. Et on va donc faire cette nouvelle édition hebdomadaire des carnets de Comaguerre avec un ordre du jour assez copieux. Et je remercie Roselyne qui se débat avec son pupitre, qui a de la peine à trouver une solution. J'espère que vous nous entendez correctement. Donc merci Habib d'être venu, merci Roselyne d'être
merci.
Avec nous, et on va sûrement arriver à résoudre cette difficulté temporaire. Alors je voulais achever, vous savez que depuis janvier, on a pris soin de faire une chronique des événements liés à la manifestation contre la réforme des retraites. Et donc, il était utile de faire le point après ce qui a été annoncé comme la dernière manifestation. Non, non, pas de retour, moi. À fond ? Non, non, j'ai rien du tout. Voilà. Alors, donc, après la dernière manifestation et surtout après le débat qui a eu lieu au Parlement le jeudi dernier, pour être simple... Et je voulais clôturer les observations qui ont pu être faites à cette antenne sur ce débat au Parlement, puisque, à nouveau, alors vous avez suivi, je ne vais pas rentrer dans les détails, le gouvernement, la présidente de l'Assemblée nationale et le président de la République, qui évidemment était au courant de tout ça et en était le chef d'orchestre, ont refusé de mettre en débat la proposition de loi du groupe centriste LIOT. Arguant que cette proposition de loi... Alors ils ont trouvé encore une astuce dans la Constitution de la République française, c'est-à-dire qu'en utilisant l'article 40 qui interdit au Parlement d'augmenter les dépenses de l'État, ce qui est une utilisation tout à fait abusive de cet article, ils ont à nouveau piétiné, pour ce qu'il en reste, la Constitution de la Ve République. Donc là, le bilan est tout à fait clair. D'une part, on peut considérer que bien qu'elle n'ait pas été votée par le Parlement, la loi retraite a commencé à avoir un début d'application. Mais on peut avoir la confirmation, cette fois définitive, que le gouvernement s'est assis sur la Constitution en pleine connaissance de cause et qu'il l'a donc rendue caduque. Cette Constitution n'existe plus. C'est un espèce de texte vermoulu qui est en train de s'effondrer sur les coups qui lui sont porté par ses propres défenseurs. Je dis propres défenseurs, à savoir le gouvernement, le chef de l'État, le ministre de la Justice, la Première ministre et le Conseil constitutionnel pour couronner l'édifice. Ils ont à tous eux cette espèce de bande organisée, puisqu'on a bien affaire à une bande organisée, le Conseil constitutionnel venant donner le dernier coup de main à l'opération montée par l'Élysée et par l'hôtel Matignon. Cette bande organisée a tué la Constitution de la Ve République. Nous sommes aujourd'hui aujourd'hui rentrer dans une situation où les textes ne protègent plus rien du tout, ne protègent pas les droits des citoyens, ne protègent pas les droits d'expression du Parlement, puisque tout ça ne sert plus à rien. On appelle ça, alors ça a été dit par un des députés qui était quand même assez en colère de ce qui se passait, les corps intermédiaires. Dans une société, il n'y a pas que, contrairement à ce qu'ils imaginent dans leur tête fébrile, il n'y a pas dans la tête d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, ils se croient tout permis, c'est-à-dire je décide, je parle et j'ai raison. Non, non, on est dans une société organisée, c'est une république avec des tribunaux, un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif, un gouvernement, des ministres et des parlementaires. Et il est écrit dans ce texte qui a donc été piétiné manifestement et solennellement, le Parlement vote les lois. Le Parlement n'a pas voté, il n'a jamais eu l'occasion de voter depuis le mois de janvier, il n'a pas voté la loi sur les retraites. Donc on a une espèce d'oukase, comme on dit, une mesure décidée par le gouvernement qui s'applique sans considération de la réalité juridique de la structure de ce pays. Donc ce pays est orphelin d'une constitution et ça ne peut jamais durer très très longtemps être orphelin d'une constitution parce qu'il y a un moment où il faut quand même trouver des règles pour fixer les rapports entre la population, 65 millions de personnes, et ceux qui la gouvernent, une petite poignée de gens qui sont là pour des raisons en plus. Bon, je ne reviens pas sur la question des élections et des scores électoraux des partis macronistes, mais on a là un vide très, très dangereux, puisqu'en fait, il n'y a pas de possibilité de dire « le texte dit ça, on respecte le texte, un point, c'est tout ». Ça serait tellement simple si c'était « c'est fini, ça ne se passera plus comme ça ». C'est-à-dire que n'importe quel texte qui, à partir d'aujourd'hui, sera présenté à l'Assemblée nationale par le gouvernement, on considérera que c'est même pas la peine, voilà. Il y a un retour. C'est bon. C'est même pas la peine que les parlementaires viennent. C'est même plus la peine, j'allais dire, qu'ils s'énervent. Il y en a qui se sont énervés et je comprends leur irritation. Vous êtes député, vous avez fait une campagne électorale, vous avez gagné les suffrages, vous avez des électeurs qui vous font confiance pour défendre un point de vue en fonction de votre positionnement politique et vous rendez compte, et ils le voient eux-mêmes sur les écrans de télévision qui rendent compte de ces débats parlementaires, que vous ne servez à rien. Et qu'on s'assoit sur vous, et que vous êtes un paillasson de la République sur lequel le gouvernement et le président s'essuient les pieds. C'est très très douloureux pour un parlementaire, parce qu'il y a des parlementaires, bon, il y a de tout dans les parlementaires, il y a des gens très sérieux qui font leur métier de parlementaire, quelle que soit la couleur, et puis il y en a d'autres qui font ça de façon un peu plus dilettante. Bon, ça fait partie des risques, mais sur 500 quand même, il y en a une bonne partie qui essayent de faire leur travail, mais là ce n'est plus la peine qu'ils se cassent la tête, c'est même plus la peine qu'ils viennent en séance, puisque de toute façon, ça finira par une motion de censure, etc. Bon, voilà. La République a été assassinée. Elle est saignée. Elle est saignée par le pouvoir macronien. Rendons-nous bien compte de ça et tirons-en les leçons. C'est-à-dire que nous, citoyens, vous, moi, Habib, Roselyne, etc., tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, nous sommes face à une espèce de vide, un vide juridique, c'est-à-dire il n'y a plus aucun texte qui règle les rapports normaux entre la société française et le pouvoir français. C'est très très inquiétant, il peut se passer n'importe quoi. On est dans une situation d'aventure tout à fait inquiétante. Bon, je tire cette conclusion, on y reviendra probablement parce qu'il y aura encore d'autres élucubrations de l'Élysée sur je ne sais quel sujet. Le dernier sujet qui est à la mode, je m'arrête quand même dessus parce que c'est inquiétant et c'est pas la première fois qu'on nous le sert. Le nouveau sujet à la mode, c'est le sujet de l'émigration. Qu'est-ce qu'on fait dans une société française qui est en train de perdre confiance en elle-même ? On n'a plus confiance dans le pouvoir politique. Le pouvoir politique impose des réformes que l'opinion publique et la société ne veut pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour distraire ? Et qu'est-ce qu'on fait surtout pour diviser ? Car le résultat de tous ces débats parlementaires et du résultat de ces votes, c'est qu'en fait, Macron n'a pu faire passer son projet que parce qu'il avait face à lui une opposition divisée. Et il importe. C'est un calcul tellement simple, je veux dire, à la portée de n'importe qui, il importe de continuer cette division. Or, il y a un outil qui est utilisé, qui est en place, qui est toujours le même, diviser la population, en particulier les couches petites et moyennes de la société, sur la question de l'immigration, c'est-à-dire trouver un bouc émissaire qui a tous les torts. C'est lui, etc. C'est en train de venir. C'est en train de venir et c'est porté par qui ? Par le parti des Républicains. je le cite, parce que pourquoi ? Le Parti des Républicains, si vous regardez le score de Mme Pécresse au présidentiel, le Parti des Républicains, il est en état de survie prolongée. Hein, il est sous oxygène. Hein, il a encore des députés, mais pas beaucoup. Hein, mais de toute façon, il n'a même plus de ligne directrice. Or, en fait, ce Parti Républicain, quelle est sa crainte ? C'est qu'effectivement, son électorat, petit à petit, soit aspiré par le Rassemblement National, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui se veut rassurant, qui est gentil, enfin qui donne des apparences de gentillesse et tout. Et donc, le Parti des Républicains, il se voit dans une espèce d'impasse dont il veut sortir. Et pour en sortir, pour que le Rassemblement National ne lui prenne pas toutes ses voix, ou la majorité, il est obligé de tenir un discours plus dur et plus radical que le Rassemblement National sur cette question de l'immigration. C'est-à-dire, les Républicains veulent doubler par la droite le Rassemblement National pour sauver leur place dans l'échiquier politique. Et ils le font. Alors, je vous raconte la manœuvre parce qu'elle mérite d'être précisée. Depuis quelque temps, les Républicains, et en particulier un certain nombre d'élus républicains, mettent en avant la question exemplaire du Danemark. Alors, qu'est-ce que vient faire le Danemark là au milieu ? Mais il se trouve que le Danemark, alors, on peut comparer un pays de 6 ou 7 millions d'habitants avec des traditions dans ces pays scandinaves, etc., bien particulières, une histoire très particulière et tout. Bon, on peut comparer. Comparer un pays de 6 millions d'habitants avec un pays de 65, c'est déjà un peu difficile, et puis avec des histoires quand même très, très, très différentes. Bon. Mais ce qui se passe, et je le dis puisque c'est le discours qui est tenu dans le cadre de cette politique donc de voler des électeurs du Rassemblement National, politique donc qui est celle des Républicains. Quel est le point de départ de cette campagne des Républicains qui est portée aussi par Édouard Philippe ? Voyez la une de l'Express de cette semaine, portée par Édouard Philippe, donc qui est entre les Républicains. Il ne sait pas trop, il est entre Macron et les Républicains, un coup oui, un coup à droite, un coup à gauche. Bon, hein, il sert d'intermédiaire entre les deux. Mais quelle est l'analyse ? C'est dire, le Danemark a décidé un beau jour que tous les immigrants irréguliers qui arrivent sur le territoire danois sans papier, on les renvoie chez eux. On les remet dans l'avion, ça s'appelle un ordre de quitter le territoire, ça s'appelle un OQTF sur le territoire de la République française, et on les remet dehors. Et il y a eu un accord entre effectivement les sociaux-démocrates danois et la droite danoise pour appliquer cette politique. Et effectivement, depuis, donc je ne sais pas quelle date, l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin c'est pas très, très ancien, chaque immigrant qui arrive et qui n'est pas régularisé, c'est-à-dire qui n'est pas donné le droit d'asile, il est remis dans un avion et on le renvoie dans son pays. C'est tout, point. Et ils ont découvert, ben tout le monde le savait, ils ont découvert qu'en France, les immigrants irréguliers qui arrivent sans papier et qui sont à un moment donné soumis à cette procédure d'expulsion du territoire de la République parce qu'ils n'ont pas été régularisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le droit d'asile politique, qui est un droit très restrictif. Hein. Donc ils sont soumis à ce qu'on appelle un ordre de quitter le territoire français, OQTF. Et c'est vrai, il ne faut pas le cacher, puisque c'est là-dessus que s'appuie la campagne des Républicains, donc la campagne raciale des racistes des Républicains, c'est dire la majorité des ordres de quitter le territoire français ne sont pas exécutés en France. Et donc c'est facile de dire, regardez, vous êtes entourés dans vos banlieues, dans vos autobus, dans vos quartiers, de gens qui sont en situation irrégulière. À la porte, mettez-les à la mer. Hein. Voilà le pli très très dangereux qui est pris. C'est-à-dire que la France n'a pas fait respecter une législation qu'elle a édictée, et maintenant on dit, maintenant il faut l'appliquer alors à la lettre, et à partir d'aujourd'hui, on va faire des razzias dans tous les quartiers. Dès qu'on trouve un sans-papier, on va le remettre dans un avion, et surtout on va le remettre dans un avion devant les caméras de télévision, pour montrer qu'en France, il y a de la discipline. Voilà vers quoi nous nous acheminons. Et pendant ce temps-là, le gouvernement français fait la guerre un peu partout, le gouvernement français endette la République, le gouvernement français vend des armes à des fascistes ukrainiens, le gouvernement français fait des tas de choses, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'on va vous dire, il faut jeter à la porte tous ces immigrants en situation irrégulière. Voilà l'alpha et l'oméga de la politique de la République. C'est pas ça une République. La République, c'est tout. C'est des retraites à 60 ans, c'est une sécurité sociale qui n'est pas détruite, c'est des médecins formés en nombre suffisant, c'est des entreprises qui tournent, c'est tout ça, c'est pas seulement de l'argent jeté par les fenêtres pour faire plaisir à des amis, c'est pas seulement de l'argent jeté par des fenêtres pour avoir une défense nationale pour se défendre on ne sait vers quel agresseur, c'est ça. Mais réduire la politique de la République française à remettre dans un avion les gens qui sont arrivés et qui n'ont pas été régularisés, c'est réduire à un tout petit aspect aspect de la politique, et c'est en fait diviser la population, et c'est surtout, je veux dire, faire ramasser l'électorat du Rassemblement national. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que poursuivent les Républicains, alors je ne sais pas s'ils sont... Si, ils sont évidemment conscients, parce que je ne considère pas Édouard Philippe comme un imbécile, je le considère seulement comme un personnage dangereux, hein, suffisamment intelligent pour être dangereux. C'est ça qui est le problème. C'est pas, s'il y avait que des imbéciles, à la limite, ça serait plus facile. Là, non, on a affaire à des gens intelligents qui se moquent absolument, vu les quartiers où ils habitent, vu le train de vie qu'ils ont. Ils sont pas gênés par les immigrés dans leur quartier. Il y a ça aussi. Et puis, qui sont en train d'aller à la pêche des voix d'extrême droite pour ne pas disparaître. C'est ça qui est très, très grave. Donc, on a affaire à des irresponsables politiques qui mènent une politique dangereuse de division de la société française au moment où la société française aurait besoin d'un projet collectif, d'un projet pour ses enfants, d'un avenir et pas d'une agitation permanente sur des sujets secondaires. C'est là aussi, ça sert ma réflexion sur la Constitution de la République qui est piétinée, ça fait partie de ça. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire que ces messieurs qui veulent rester aux affaires, hein, les Édouard Philippe et autres, ils sont capables de tenir n'importe quel discours et de mener n'importe quelle politique pour rester là où ils sont. C'est-à-dire que c'est une classe qui veut tout garder et ne rien partager. C'est ça la réflexion. Alors ça, ça amène sur des réflexions beaucoup plus vastes. C'est une classe qui veut tout garder, mais c'est une classe toute petite. Alors, aux autres de bien réfléchir, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Il faudrait que nous soyons aussi plus organisés qu'eux, car nous sommes certainement tous les uns à côté des autres plus intelligents, parce que ça fait plus d'intelligence rassemblée. Simplement, ils sont dangereux parce qu'ils ne veulent rien lâcher de leur position de pouvoir actuelle et des bénéfices qu'ils en retirent. Voilà un bilan de la situation française, qui méritait d'être fait, je pense.
Oui, bien sûr.
Il faut le dire. Alors, une réflexion satisfaisante en cette journée particulière. Aujourd'hui, 13 juin 2023, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est arrivé à Pékin, à l'invitation du président chinois. Il n'est pas là pour juste une visite protocolaire et pour se taper sur l'épaule. Il est là pour 3 jours, c'est-à-dire du 13 au 16, donc une bonne partie de la semaine, le temps de discuter à fond de tous les problèmes. Quel est le sens de l'invitation par la République populaire chinoise du président de l'autorité palestinienne ? Ce n'est pas de renforcer le pouvoir de ce monsieur qui est faible, et bon, on connaît le personnage et on connaît ses limites. Mais c'est de dire, attention, il y a une législation internationale, il y a des résolutions de l'ONU qui sont très très importantes concernant le statut de la Palestine, et cela doit être appliqué pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes, nous, la communauté internationale, comme on dit, s'est enfoncée. Je rappelle que du point de vue du droit, même si beaucoup de gens disent « oui, mais c'est plus possible, ça ne marchera pas », etc., du point de vue du droit et du point de vue de l'Organisation des Nations Unies, il y a 2 États sur la terre palestinienne. Oui. Depuis le début, il y a toujours eu 2 États. Bon, pour l'instant, le 2e État palestinien n'a pas pu s'organiser. Il est conduit par l'autorité palestinienne. Mais du point de vue du droit, et j'insiste là-dessus, parce que c'est parfaitement clair, il n'y a pas l'ombre du quart d'un poil de doute là-dessus. Il y a 2 États dans tous les textes. Et jamais, ni l'Assemblée générale des Nations unies, ni le Conseil de sécurité n'ont pris une autre position pour dire, par exemple, qu'il n'y aurait plus qu'un seul État. Alors ça, vous pouvez lire dans quantité de journaux, chez des analystes, oui, mais le 2e État, c'est plus possible, le 1er à tout prix, il ne reste rien, etc. Ça, c'est un constat des faits, de la réalité de terrain, c'est-à-dire qu'il ne reste presque plus d'espace aux Palestiniens. Mais en droit, la Palestine existe.
Comme les terres occupées aussi.
Voilà, la Palestine existe puisqu'elle a été créée par la décision de l'ONU de 1948. Et donc la Palestine existe, et en droit elle existe tellement que, et je m'appuie là-dessus sur un livre dont je vous ai parlé récemment qui s'appelle « Jérusalem Est », le livre de l'avocat Gilles Devers, qui s'occupe des plaintes déposées par des citoyens palestiniens contre Israël par rapport à des violences qu'exerce Israël sur des Palestiniens. Et ce qui est important à retenir, la Cour pénale internationale a reconnu que la Palestine est un État.
Ah, exact.
Donc il y a bien deux États. Ça a été reconnu aussi par un jugement de la Cour de justice internationale qui a reconnu que la Palestine était un État à côté de l'État d'Israël. Alors la Cour de justice internationale, ça a cette difficulté qu'elle peut produire des arrêts qui disent clairement il y a un État, il y a un deuxième État, il y a une frontière entre les deux qui est à tel et tel endroit. Mais la Cour de justice internationale, qui siège aussi à La Haye, comme la Cour pénale internationale, mais qu'il ne faut pas confondre, n'a pas de pouvoir de coercition. C'est-à-dire elle peut juger, effectivement, oui, mais elle n'a pas de troupes à envoyer pour dire il faut obéir. Hein. Ah. En France, quand il y a un tribunal qui juge, si vous n'exécutez pas le jugement, vous exposez à des poursuites. Hein. Là, pour la Cour de justice internationale, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ceci étant, du point de vue du droit, la situation est parfaitement claire. Il y a deux États, la Palestine est un État, et c'est ce que le président chinois va dire dans le tuyau de l'oreille à M. Mahmoud Abbas, qui le sait très bien. Il y a deux États et il faut désormais que le deuxième État trouve sa place, et parce que ça ramènera le calme dans cette région. Et si le président chinois se permet de tenir ce discours, c'est qu'il a préparé la situation. Préparer la situation, ça veut dire ce qu'il a fait il y a quelques semaines, ça veut dire inviter l'Iran et l'Arabie saoudite à se serrer la main, inviter les chiites et les sunnites à ne plus être en guerre les uns contre les autres, inviter le monde arabe, et c'est indirectement ce qui se joue dans la rencontre avec Mahmoud Abbas, à ne pas dire « Ah ben on va aller faire plaisir à Israël, on va lui signer des textes disant qu'ils ont raison, etc. » Non, c'est fini. Ce que l'Arabie saoudite est menacée de faire, c'était de dire « Ah ben on reconnaît Israël et puis on n'en parle plus, comme l'a fait l'Égypte à un moment, comme l'a fait... Qui donc l'a fait encore ? Voilà, Jordanie. Bon. Mais ça, c'est plus possible. En droit, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, le président chinois arrive comme l'arbitre du droit. Le droit, il est là, maintenant, on va le faire respecter. C'est ça le grand changement. Et quand c'est le président chinois qui le dit, c'est pas tout à fait la même chose que si c'était le président du Yémen. Hein. Ça pèse d'un autre poids. On l'écoute, on sait qu'il ne fait pas ça pour casser la figure à quelqu'un, je vais parler trivialement. On sait qu'il fait ça parce qu'il faudrait qu'il y ait un minimum d'ordre international pour que l'humanité entière puisse avoir d'autres perspectives que de s'envoyer des missiles sur la figure. Bon, c'est ça qui est derrière cette rencontre, c'est très très important, parce que ça veut dire que l'Arabie saoudite, qui est au courant de la démarche, les Émirats arabes unis, maintenant, ne sont plus prêts, et c'est la leçon qu'il faut tirer de la rencontre entre l'Iran et l'Arabie saoudite, à dire « on va faire ami-ami avec Israël et puis on les laissera, on fermera les yeux sur leurs exactions contre les Palestiniens ». Non, ce que rappellera le président chinois à Mahmoud Abbas, qui le sait, c'est qu'il ne faut pas que les régimes arabes, quels qu'ils soient, alors je ne parle pas de la Syrie, qui a toujours été parfaitement correct sur cette question-là, que les autres régimes arabes se mettent à faire les innocents, à dire « Oh, ben c'est pas grave, tant pis pour les Palestiniens ». Non, non, on ne dit pas « tant pis pour les Palestiniens ». Les Palestiniens ont un État, il faut qu'ils fassent fonctionner cet État.
Alors, ça de toute façon, toute la Ligue arabe a pris l'initiative.
Ça y est.
Oui, c'est surtout le peuple arabe.
Voilà, et surtout les peuples arabes qui ont fait pression. Mais l'important, c'est que maintenant, alors on pouvait dire, effectivement, dans des pays comme l'Arabie saoudite ou à Dubaï et à Abu Dhabi, le peuple arabe, il pèse pas beaucoup et la monarchie fait ce qu'elle veut. Surtout dans les Émirats où il y a beaucoup plus d'étrangers que de citoyens du pays. Non, ça, c'est plus possible. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle la rue arabe, les peuples arabes disent il faut soutenir les Palestiniens, pas que les peuples arabes, les Pakistanais disent exactement la même chose, les Indonésiens disent exactement la même chose. Ça veut dire que c'est fini, on ne les laisse pas tomber. Il y a deux États, c'est prévu par l'ONU depuis le début, il y aura un État palestinien. Alors après, effectivement, en Israël, ça doit un petit peu poser des problèmes, parce que faire un État palestinien, ça veut dire qu'il faut lui donner l'espace auquel il a droit. Ah ben ça, messieurs, qui vous a autorisé à faire des colonies partout ? Vous êtes autorisé tout seul. Hein ? Vous n'avez pas le droit pour vous. Vous avez spolié.
De toute façon, l'État d'Israël, jusqu'à présent, n'a pas une frontière.
Non, ils n'ont jamais établi de carte. Donc, vous avez volé du terrain de la République palestinienne, de l'État palestinien. Ben, il faudra le rendre. Ça ne veut pas dire, alors, on va tout de suite lever les bras au ciel, ils vont faire des pogroms. Mais ce n'est pas du tout la question. Vous avez volé la terre palestinienne, il faudra à un moment donné la rendre. C'est tout. Hein, vous l'avez volée. Et personne, aucun organe de droit international, pas plus l'ONU que la Cour de justice internationale, ne vous a autorisé à voler la terre palestinienne. On en est là. Mais on est à un tournant, c'est très très important qu'on en soit là. C'est-à-dire que la Chine dit ça, bien entendu la Russie dit la même chose, et le reste, une bonne partie du ce qu'on appelle tiers-monde, du Sud, gros, dit la même chose. Il ne reste plus beaucoup d'espace à Israël, si ce n'est aller à la maison mère à Washington, en disant « Papa, on me fait du mal ». Eh bien, tant pis, vous l'avez voulu, vous avez triché, vous avez volé la terre des autres, vous avez violé toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Il faut que ça s'arrête, un jour ça s'arrête, c'est en train de s'arrêter sous nos yeux. Il se passe des choses très très intéressantes, c'est sous vrai. Nos yeux. Ouais. Il fallait le dire. Bien. Et donc on en parlera parce qu'on aura, je pense, le bilan la semaine prochaine de la visite du président Mahmoud Abbas à Pékin et des remous que ça va faire dans le marigot, comme dans le marigot diplomatique occidental. Mais ils sont effectivement très embêtés. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Ils peuvent rien dire. Ils peuvent dire. Hein, les textes sont là, l'ONU est là, et c'est très très clair. L'ONU n'a jamais bougé de sa position sur il y a deux États depuis le début. C'est ça qui se joue maintenant. Voilà, j'étais un petit peu en Asie, je vais y rester, pour juste parler d'un sommet de l'ASEAN, donc l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est, qui a tenu, donc, comme elle le fait tous les ans, son 42e sommet. Et ça a été intéressant, alors on n'a pas beaucoup parlé parce que ça nous trouble un petit peu, mais ils ont affiché très clairement, collectivement, alors je rappelle qu'il y a là-dedans l'Indonésie qui est le gros morceau, le président actuel en exercice de l'ASEAN, mais il y a aussi la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, les Philippines, etc. Bon, et le Myanmar. Et donc ils ont affirmé qu'ils voulaient être équidistants des blocs, ils ne voulaient pas être dans une stratégie de bloc, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le bloc occidental, mais ils ne sont pas des amis de la Chine, hein, ils sont indépendants, ils pèsent quand même assez lourd, c'est presque 700 millions d'habitants avec un niveau de vie qui est en train de monter un peu partout, c'est pas rien. Et ils ont pris quelques décisions qui sont porteuses d'avenir, en ce sens qu'ils ont décidé d'une part de créer un fonds monétaire asiatique entre eux, alors qu'ils en ont les capacités, c'est-à-dire que chacun de ces pays pourra aider un des autres sur un projet concret. Ça ne sera plus le FMI, ça ne sera plus la Banque mondiale, ce ne sera plus du dollar. Et deuxième donnée liée à la donnée précédente, il y aura donc des transactions entre ces pays, ils s'échangent des produits les uns les autres, dans une monnaie qui ne sera plus le dollar. Bon. Donc, ils desserrent l'étreinte états-unienne petit à petit, mais avec le poids qu'ils ont acquis désormais sur la planète. Donc ça, c'est à suivre. Alors, ce n'est pas très spectaculaire, et d'abord, on en rend très très peu compte dans la presse occidentale, mais ces machines-là avancent inexorablement dans notre insouciance lointaine et dans notre satisfaction benoîte. Non, non, eux, ils travaillent, ils ont des objectifs, et ils sont très très clairs. Ne pas tomber dans le piège d'un camp contre l'autre, ne pas s'impliquer dans la guerre pour Taïwan ou contre Taïwan, ne pas s'impliquer dans les conflits actuels, mais continuer à progresser. Ils ont quand même 700 millions de personnes dont ils s'occupent à nourrir, à faire travailler, à former, etc. Et bien, ils ont un comportement responsable. Bon, ça, c'est très, très important à noter. Je reste un petit peu dans cette région du monde pour parler d'une réflexion de l'Iran au sujet de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Alors, vous savez que, à nouveau, il a été question, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc cette structure internationale qui est chargée de contrôler l'application du traité de non-prolifération nucléaire, c'est-à-dire le nucléaire civil pour faire de l'électricité est autorisé, le nucléaire militaire est interdit. La non-prolifération, c'est ça que ça veut dire. Bon. Vous savez que depuis des années, l'Iran est accusé de cacher la réalité de son programme militaire atomique. Et l'Iran a dit « Mais moi, j'ai signé le traité de non-prolifération. Depuis que je l'ai signé, les inspecteurs de l'Agence internationale d'énergie atomique viennent sur place. Je leur fais visiter les installations. Ils peuvent faire des prélèvements. Ils ont des caméras de surveillance. Bon. » Et il se trouve que tout d'un coup, mais ce n'est pas tout à fait par hasard, vous allez voir, l'AIEA dit « Ah, on nous cache quelque chose. » La réponse des Iraniens a été assez amusante, et je m'arrête dessus. Ça a été de dire « Qui vous a dit ça ?» Qui vous a dit ça ? Alors l'Agence internationale de l'énergie atomique est dirigée en ce moment par un spécialiste, un expert qui est argentin, M. Grossi, qui effectivement est un peu embarrassé dans ces situations-là. Mais quand les Iraniens lui répondaient « Qui vous a donné ces informations ?» Puisque vous avez pu venir avec vos inspecteurs, vous avez bien vu que ce n'était pas vrai, hein. Alors, bon, Grossi est embêté. Ouais, alors là, les Iraniens répondent, disant, c'est Israël qui vous a soufflé ça dans le tuyau de l'oreille. Mais ne croyez pas Israël. D'ailleurs, pourquoi vous croiriez Israël? Alors réfléchissez deux secondes. Voilà un pays qui n'a pas signé le traité de non-prolifération, qui a des bombes atomiques sur lesquelles vous n'avez pas le droit d'aller inspecter, hein, qui vous cache tout. Et nous, on vous cacherait des choses alors qu'ils vous cachent tout et vous croyez tout ce qu'ils vous disent. Mais vous savez, vous avez affaire à des gens de mauvaise foi, à des dissimulateurs, à des traîtres. Hein. Voilà. Donc arrêtez avec ça. Hein. Venez quand vous voulez. On ne vous a jamais mis à la porte. Hein. Mais ne croyez pas ces propos excessifs, même ces bobards fabriqués en Israël. Israël n'a aucune respectabilité sur la question de l'arme atomique. Puisqu'il est toujours dans ce qu'il appelle l'ambiguïté stratégique, comme si, enfin, il n'y a que les imbéciles qui le croient, je veux dire, qu'ils n'ont pas la bombe atomique, puisque dans tous les documents de stratégie dans tous les pays du monde, il est bien dit qu'ils ont à peu près 200 bombes atomiques, entre 150 et 200, pratiquement autant que la France, qui n'est pas rien, hein. Peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas, avec des vecteurs. Alors on sait qu'ils ont des avions, on sait qu'ils ont des sous-marins, que l'Allemagne leur a très gentiment fourni, on sait des tas de choses comme ça. Mais ils sont dans une zone neutre. Alors, on en revient à mon propos de tout à l'heure. Ils peuvent occuper le territoire d'un État sans demander l'autorisation, ils peuvent ne pas définir leurs frontières en disant oh, ben, on pourra toujours les bouger.
Aussi.
Ils peuvent tuer des gens qui sont chez eux, mais dont on veut prendre la place. Ils peuvent mentir sur leur armement atomique, ils peuvent interdire de respecter les traités internationaux, il ne se passe rien. Mais à un moment donné, il se passera quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Alors, on va dire que je tiens des propos antisionistes. Alors, après, vous savez, l'équivalent antisioniste, antisémite, il est très, très classique. Ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Il y a un comportement d'État, dissimulateur, menteur, tricheur. Ça n'a rien à voir avec la religion israélite. Rien n'a du tout à voir. À telle enseigne, d'ailleurs, qu'il y a sur le territoire même de l'État d'Israël des citoyens israéliens qui sont du même avis que moi. Donc, ce n'est pas du tout ça le problème. Donc, arrêtons ce jeu étudiant. J'allais dire, le antisionisme égal antisémitisme.
Ça
suffit,
hein,
ça bon, suffit, ça suffit. Ça suffit. Ouais,
un âne, pendant 6 mois, si on lui apprend à danser, il dansera.
Hein. Exactement. Voilà, voilà pour l'Iran et l'AIEA. Ça méritait. Alors, c'est anecdotique, mais en même temps, ça montre que du côté iranien, on ne se sent plus coupable. On dit, écoutez, arrêtez vos bêtises, parce que ça suffit, on vous connaît, vous pouvez venir quand vous voulez. On a signé le traité, et c'est nous qu'on montre du doigt, et celui qui n'a pas le traité, on le laisse faire n'importe quoi. Et on croit ses balivernes. Bon, ça ne va pas. C'est un comportement inégal. Vous êtes en fait partie prenante contre nous.
Il y a eu une déclaration d'Ali Khomeini.
Oui.
En ce qui concerne les accords atomiques, il a dit, si on veut fabriquer, mais nous, on interdit la fabrication.
Oui, tout à fait. On est capable.
Si on veut, on peut.
On est capable. Mais bien
capable,
sûr. Mais
voilà.
On a les scientifiques, les techniciens, les laboratoires et tout. Voilà.
Oui.
Et vous venez les visiter quand vous voulez. Alors,
de
arrêtez.
Milliers de spécialistes, il a dit. On
arrêtez, a arrêtez. Voilà. Donc, et il faut savoir en plus qu'ils ont toutes les garanties, puisque vous savez qu'il y a des centrales nucléaires civiles en Iran, sur la côte du Golfe, à Bouchir, et que ces centrales ont été mises en place par la Russie, par l'organe russe qui s'appelle Rosatom, et que pour éviter que l'Iran soit montré du doigt en disant « Ah oui, mais avec les déchets, vous allez extraire du plutonium, vous allez faire des bombes atomiques », la Russie, dans les accords de construction de la centrale de Bouchir, a dit que c'est elle qui recyclait les combustibles usagés.
Ouais.
Donc, le plutonium, il y en a, il est en Russie. Et là, on le sait. Et là aussi, la Russie, elle fait partie du traité. Bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon. Et je reste sur l'AIEA. Je reste sur l'AIEA, puisque l'AIEA, toujours embêté, ce pauvre monsieur... je ris. Ce pauvre monsieur Grossi, qui ne veut pas trop se faire mal voir des États-Unis, qui doit avoir été mis là quand même avec protection et tout, qui voudrait bien garder sa place. Alors, je ne mets pas du tout en question sa compétence d'expert en nucléaire, mais il voit bien qu'il y a des moments où il ne faut pas qu'il soit très ferme sur des propos qui pourraient être mal interprétés par les patrons. Les patrons, c'est les États-Unis. Et effectivement, c'est tout à fait le cas par rapport à la fameuse centrale nucléaire ukrainienne, russe aujourd'hui, de Zaporoïe. dont on a reparlé ces derniers jours. Alors, sur la centrale nucléaire de Zaporijia, monsieur Grossi est embêté, parce qu'il sait qu'effectivement les Ukrainiens ont tiré dessus. Il sait d'une part que dès le premier jour, dès le 24 ou le 25 février 2022, l'armée russe était dans la centrale de Zaporijia. Il sait que depuis ce moment-là, c'est Rosatom, l'organe russe de l'atome, qui gère cette centrale. Donc, il sait très bien qui est le maître. Il le sait d'autant mieux que quand, je crois, au printemps, il est venu, il y a un moment où, l'été dernier, il est venu à Zaporijia lui-même, il est atterri en Ukraine, à Kiev, ou je ne sais pas, ou à Dniepropetrov, peu importe, il est venu en voiture jusqu'à la ligne de séparation entre la Russie et l'Ukraine. Là, à ce moment-là, la Russie l'a pris en charge, l'a amené dans la centrale, lui a fait visiter la centrale avec les égards dus à son rang, et il y a même laissé des délégués permanents. Donc il sait très bien, il peut avoir un coup de téléphone tous les jours, un fax qui lui raconte ce qui s'y passe. Bon, il sait très bien la situation. Mais il n'a jamais dit, alors qu'il le sait, il l'a vu, il a eu tous les témoignages, il n'a jamais dit que c'était les Ukrainiens qui tiraient dessus. Parce que là, ça lui brûle la langue, c'est pas possible, c'est interdit, il faut pas dire du mal des Ukrainiens aujourd'hui, enfin, du gouvernement ukrainien, je fais la différence. Et donc il est bien embarrassé, ce pauvre monsieur. Et il doit être encore plus embarrassé ces jours-ci, à la suite de l'histoire du barrage de Kakhovka. Voilà. Et on en arrive au barrage. Alors vous avez tous vu probablement des images de ce barrage. Alors je le situe. Donc il est un peu en aval de la fameuse centrale nucléaire de Zaporijia, de Energodar. Hein. Donc assez bas sur le fleuve Dniepr. Et donc ce barrage relie la rive droite qui est du côté ukrainien. Alors aujourd'hui il y a une ligne de front qui n'est pas la ligne juridique, puisque il faut savoir que les provinces qui ont été rassemblées dans la Russie à la suite des référendums populaires s'étendent du côté de la rive droite à Kherson et dans d'autres endroits sur le territoire aujourd'hui occupé par l'armée ukrainienne. Et donc formellement en droit, la rive droite du Dniepr est déjà en territoire russe. Bon, c'est très très important à noter. Mais pratiquement, la ligne de front, elle est là, elle est sur la rivière, c'est-à-dire sur la rive droite, on est côté armée ukrainienne, sur la rive gauche, on est côté russe. Alors cette centrale, ce barrage, il est ceci de particulier, que c'est un barrage assez long, avec une voie de circulation routière dessus, ce qui en fait un objectif militaire important pour les questions de bataille militaire. Et puis les groupes, donc les turbines qui fabriquent l'électricité, sont côté russe. Et il y a donc 4 ou 5 groupes qui fabriquent de l'électricité coûteuse et qui turbinent l'eau du Dniepr. Alors, ces groupes n'ont pas été affectés par l'éclatement, la casse du barrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a toutes les hypothèses qui circulent, peu importe. Retenons simplement qu'il y a eu déjà, et ça a été documenté, il y a eu déjà des tirs ukrainiens sur le barrage, puisqu'il était stratégique. Et il a peut-être suffi d'un tir supplémentaire pour ça, ou d'une faiblesse, puisque ce barrage quand même date, je crois, de 1952 ou 1955. Donc, c'est un vieux barrage, qu'à force de recevoir des tirs, même pas très gros, un coup ici, un coup là, pendant plusieurs mois, il a faibli, il a cassé. Bon. N'allons pas plus loin. Simplement, là où il ne faut évidemment pas aller, en disant que c'est les Russes qui ont fait ça pour se faire plaisir. Ils ne font pas plaisir du tout. D'abord, c'est eux qui sont du côté de l'électricité. L'électricité va leur manquer de leur côté s'il n'y a pas assez d'eau pour faire tourner les turbines. Et puis, quel intérêt ils auraient, puisqu'ils maîtrisaient la situation, et que même, ils l'ont dit, ils l'avaient miné au cas où l'armée ukrainienne passerait sur le barrage par la voie routière qui existe. Donc ça, il l'avait dit, il l'aurait fait. Bon. Donc c'est pas ça. Alors, accident, volontaire et tout, la dernière hypothèse, c'est que ce soit les Russes. Bon, d'abord, la première raison, ça dans les avances, ça n'a rien du tout. Deuxième raison, qui est beaucoup plus importante, ça met en question l'approvisionnement en eau de la Crimée. Il faut savoir que la Crimée, c'est une terre un peu méditerranéenne d'aspect, on connaît, et donc la Crimée manque d'eau douce pour approvisionner sa population, et donc il y a de l'eau du Dniepr qui, un peu en amont du barrage, passe par un long canal jusqu'à la Crimée. Et donc effectivement, si le niveau du Dniepr descend trop, l'eau ne va pas aller jusqu'en Crimée. Donc il y aura un problème d'approvisionnement en eau potable de la population de Crimée, c'est quand même 4 millions de personnes. Bon. Ça, on va voir après comment ça va se passer. Dernier problème, il a été question, et vous savez, donc dans les centrales nucléaires, comme la fameuse centrale de Zaporijia, il y a des piscines pour le refroidissement des déchets radioactifs. Quand on enlève des déchets radioactifs d'une centrale, ils sont chauds, hein, et donc il y a des déchets, et donc il faut les refroidir dans des piscines. Bon. Et donc, effectivement, l'eau des piscines, c'était l'eau du Dniepr, puisque la centrale est au bord du Dniepr. Si le niveau du Dniepr descend trop bas, il va manquer d'eau dans les piscines. Et donc, à ce moment-là, si les déchets ne sont pas refroidis, c'est très, très dangereux. Ils s'échauffent. Bon. Alors, pour l'instant, la direction russe de la centrale affirme que la situation est sous contrôle. J'imagine qu'ils avaient imaginé, enfin, ils avaient dû penser à un circuit de secours au cas où. Hein. Mais là aussi, M. Grossi, ce pauvre M. Grossi, est obligé de dire... On va voir, j'attends des nouvelles et tout. Il a deux agents sur place, il sait très bien, il la connaît, il l'a visité lui-même, il sait très bien dans l'Italie, et il sait que si le directeur russe de la centrale de Zaporijjia lui dit « Non, la situation est contrôlée », c'est pas que ce monsieur veut faire un feu d'artifice à lui tout seul. C'est pas un fou furieux. C'est un monsieur qui dit « Bon, là je vais y arriver, j'ai un problème d'alimentation en eau, mais j'ai des circuits de secours, je vais me débrouiller. » Donc, alors, tout le bruit qu'on peut vous faire, y compris la panique qu'on peut engendrer en disant « Ils ont fait ci, ils ont fait ça, les Russes n'ont aucun intérêt à avoir fait ça. » Donc, soit c'est un accident, soit ça a été conçu, c'est pas impossible, on verra, ça n'a pas beaucoup d'importance. Simplement, il ne faut pas rejeter la responsabilité sur celui qui n'y peut rien et à qui ça n'arrange pas les affaires. Quand on ajoute à ça le fait que les saboteurs ukrainiens, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ont fait sauter un pipeline qui approvisionnait en ammoniac le port d'Odessa, alors il faut savoir que l'ammoniac, c'est la base des entrées qu'on appelle les engrais nitreux ou nitriques. Bon. Et donc la Russie est un gros exportateur d'engrais nitreux à base d'ammoniac. Et donc il y avait un pipeline d'ammoniac qui arrivait jusqu'à Odessa, qui était embarqué. Et donc on pouvait fabriquer des engrais nitrés dans d'autres pays que la Russie à la base de ça. Et la Russie est un gros fournisseur. Donc quand les saboteurs ukrainiens font sauter ce gazoduc d'ammoniac, ils s'en prêtent directement aux intérêts économiques de la Russie. C'est leur façon de faire la guerre. Il faut bien voir, ça c'est le contexte. Dernière chose sur l'aspect purement militaire de la fameuse offensive ukrainienne, puis je vais finir là-dessus, ben l'offensive ukrainienne, elle est terminée. Elle est terminée, c'est-à-dire que l'offensive ukrainienne alors, était spectaculaire dans sa préparation, puisqu'il s'agissait de régiments blindés qui allaient aborder la première ligne de défense russe, sur le côté russe, et qui allaient percer la ligne de défense, au moins la première. Bon, ils n'ont rien percé du tout. Tous les chars d'assaut pratiquement ont sauté sur des mines. On considère, alors les chiffres sortent petit à petit, bien sûr ils seront démentis à Kiev, mais que tous les jours de cette offensive, l'armée ukrainienne, qu'il faut encore appeler ukrainienne, encore qu'on ne sache plus combien d'Ukrainiens dedans, a perdu 1000 hommes tous les jours. Bon, alors comptez, ça fait déjà presque une semaine, voyez le travail. Pratiquement, il n'y a plus d'armée ukrainienne. Donc il ne resterait, c'est là qu'il faut qu'on ait un regard sur l'avenir, pour mener la guerre contre la Russie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faudrait une autre armée qui n'est pas encore sur place, et il ne reste que l'OTAN. Et là, l'OTAN n'est peut-être pas très sûr de devoir y aller, vu ce qu'ils observent sur le terrain. Alors, fournir des chars, c'est bien, fournir des missiles, c'est bien, mais envoyer des soldats de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, alors que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, et donc le traité de l'Atlantique Nord ne peut pas s'appliquer à un pays qui n'est pas l'OTAN, il n'y a pas de solidarité. C'est déclarer la guerre à la Russie, mais déclarer la guerre officiellement. Et ça, je ne pense pas que ni M. Biden, qui est en train de préparer sa réélection, si jamais il y arrive, ni M. Trump, qui voudrait bien être réélu lui aussi, n'en ont envie. Et il faut bien savoir que, et je mets la question de l'élection présidentielle des États-Unis sur la table, il faut savoir que dans aucun des deux camps aujourd'hui, on ne voit clair sur l'avenir dans cette situation qui, stratégiquement, militairement, est très très mauvaise pour les États-Unis. C'est une des pires qu'ils ont traversées. Or, il se trouve que, et dans le camp démocrate, avec l'arrivée tout d'un coup surprenante du fils de Bob Kennedy qui veut se présenter contre Biden, peut-être d'autres, et comme du côté républicain où il y a des républicains, et on le sait depuis le début, qui n'aiment pas Trump, les deux camps sont divisés sur eux-mêmes. Donc effectivement, rien aujourd'hui ne permet de dire dans quel sens va tomber l'élection des États-Unis, et surtout, est-ce que la population va continuer à croire à ce jeu consistant à dire on est les meilleurs du monde, on gagne toutes les guerres, on fait ce qu'on veut partout. Ça va poser de plus en plus de questions. Ça, sur un fond de difficultés sociales, je n'insiste pas là-dessus, c'est connu. Donc le camp occidental, donc avec son leader, les États-Unis d'Amérique, il n'est pas en très très bonne santé. Et donc de là à faire la folie consistant à dire « j'attaque la Russie parce que j'ai décidé que je lui voulais du mal », je pense que c'est une chose qui n'est pas possible dans l'état actuel des rapports de force. Bon. On verra. Quant à l'Europe, alors revenons à l'Europe, puisque l'Europe a beaucoup fait pour envoyer des armes, de l'argent, etc. au régime de Kiev. Est-ce qu'elle va continuer? Alors je ne sais pas, parce que en fait on commence à avoir les comptes qui s'affichent. Les comptes qui s'affichent, c'est le PIB de l'Allemagne qui diminue, par exemple. Le PIB de l'Union européenne qui diminue lui aussi. Le PIB de la France qui est souffreteux. On est à presque 2%, mais ce n'est pas brillant. Donc l'Union européenne est en des difficultés économiques dans lesquelles elle s'est mise elle-même en appliquant les sanctions qui lui ont été dictées par les États-Unis et dont effectivement il faudra peut-être qu'elle sorte. Mais je voulais souligner quand même qu'elle n'est pas tout à fait prête d'en sortir parce qu'il y a à la tête de l'Europe... C'est pas le cas, enfin, c'est pas ce que disent les traités, mais c'est la réalité. Un certain nombre de gens qui prennent les décisions pour 400 millions de personnes sans avoir été élus par quiconque. Il s'agit de Madame von der Leyen. Et le deuxième personnage que je vais épingler aujourd'hui s'appelle Monsieur Thierry Breton. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il a été ministre de l'économie, je ne sais plus chez qui, sous Sarkozy. Enfin, bon, il est aujourd'hui commissaire au marché européen. C'est-à-dire il s'occupe de la mise en concurrence et puis de l'unification des marchés. De quoi il s'occupe principalement? Il s'occupe d'augmenter les fournitures d'armement aux armées européennes. C'est-à-dire qu'il est à la tête d'une stratégie d'Europe puissance, alors qui... dans les faits, regroupe un peu ce que dit Macron dans les discours. Là, c'est pas Macron, ça, c'est Thierry Breton tout seul avec toute sa cour bruxelloise. Mais ça recoupe un peu ça, puisqu'il dit qu'il faut que l'Europe soit une puissance militaire qui fasse peur. Ça se traduit chez nous par les 413 milliards de la loi de programmation militaire. Vous savez que les députés qui se sont insurgés en disant « mais on se moque de nous sur la loi retraite », ils auraient aussi bien fait de s'insurger en disant « on se moque de nous sur la loi de programmation militaire », puisque de toute façon, c'est l'Union européenne qui est en train de faire prendre la mayonnaise pour que l'Europe devienne une grande puissance militaire. Qu'est-ce qu'il fait, M. Thierry Breton? Ben, il est à la tête d'une structure qui fait marcher les industries de l'armement. Alors il y a à Bruxelles, je vais vous dire son nom, un lobby... mais un lobby tout à fait officiel, un lobby qui s'appelle... ça s'appelle Aerospace and Defense Industries Association of Europe. Je vous le dis en anglais, puisque vous savez qu'on ne parle plus le français dans l'Union européenne, quasiment plus, c'est une langue officielle, mais enfin, elle est en train de disparaître. Et donc, il s'agit d'un lobby qui regroupe toutes les industries de défense européennes, où les grands leaders sont le groupe italien Leonardo, le français Thales, Airbus bien entendu, et quelques autres, Saab, les Suédois, enfin il y a de gros morceaux. Et donc M. Thierry Breton est en train de dire il faut aider ces industries-là et leur donner beaucoup d'argent, donc que la Commission européenne crée un fonds pour aider ces industries-là. C'est-à-dire que Bruxelles, et donc ce n'est pas une décision qui se prend à Paris, alors ça on vous fait toujours croire que les décisions se prennent à Paris, c'est les graves décisions sur l'âge de départ à la retraite, sur les budgets militaires, se prennent d'abord à Bruxelles. Après nous on applique, c'est ça. Bon. Donc ce que dit Macron en disant la souveraineté militaire de l'Europe et tout, ça c'est l'habillage, c'est joli parce qu'il se fait plaisir. Non, la décision elle est prise par M. Breton, qui n'est élu par personne, qui est le commissaire, le porte-parole des industries de l'armement. Alors si vous ajoutez effectivement 413 milliards en France, quelques centaines de milliards en Allemagne, en Italie, etc., ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. C'est ça qui est en jeu. Alors vous imaginez tous les gens qui sont à la tête de ces industries, donc les Thales, les Airbus, les Leonardo, les Saab, etc., ils ont effectivement, ils salivent de plaisir. Ça va tomber dans notre escarcelle. Est-ce qu'à un moment, ils vont se poser la question que vous devez tous vous poser, pourquoi cet argent-là, il n'irait pas, par exemple, pour les retraites, pour la sécurité sociale, pour les hôpitaux, pour le bien-être des individus de l'Europe? Ah ben la question ne se pose pas parce que la Commission européenne a décidé que c'était comme ça. Donc on a affaire à une dictature d'un certain nombre de technocrates qui orientent l'Europe vers la guerre. Les États-Unis sont très contents, puisque depuis Trump, ils nous l'ont dit et redit, dépensez autant que vous voulez, c'est autant qu'on ne dépensera pas nous. Donc affaiblissez-vous, fermez vos hôpitaux, allongez l'âge de la retraite. Nous, ça nous est complètement égal, c'est pas notre problème. D'ailleurs, de toute façon, chez nous, c'est pas brillant non plus la situation sanitaire, donc ça nous émeut pas du tout. Allez-y, mettez l'argent du mauvais côté et vos populations, débrouillez-vous avec. Ben là, au niveau des élections, c'est vous qui gérez. D'où l'intérêt, je reviens au début, d'où l'intérêt de focaliser le débat sur un débat complètement secondaire. C'est pas la la quantité de sans-papiers qui dans, c'est qu'il y ait 413 milliards qui aillent à la défense et que ça soit pareil dans tous les pays d'Europe et que M. Breton passe ses journées à banqueter, à discuter avec ces gens-là qui veulent se remplir les poches. Et ce n'est pas les quelques emplois qui seront sauvés, peut-être même créés dans les industries des chars d'assaut ou de l'aéronautique de défense qui vont compenser les pertes par ailleurs. Et ce n'est pas ça qui recréera des hôpitaux, ce n'est pas ça qui fera changer l'âge de départ à la retraite. Donc on est en train de partir sur un chemin que nous, citoyens, n'avons à aucun moment décidé. Parce que M. Macron, qui dit qu'il avait annoncé qu'il touchait à la retraite pendant sa campagne présidentielle, il n'avait pas dit qu'il allait mettre 413 milliards au pot pour les défenses nationales. Mais il le fait. Donc les paroles ne valent rien. Et on sait que les décisions importantes se prennent à Bruxelles. Elles sont prises par des gens, même si M. Breton est français, qui sont des espèces d'apatrides, des agents du grand capital, qui n'ont plus de lien de cœur avec leur propre pays. Voilà. Ça méritait d'être dit. Je regarde l'heure tranquillement.
Ah, oh, ça va.
Oui. Ah oui, alors je vais changer un petit peu d'endroit pour parler des relations un petit peu compliquées qui se passent autour de la question du Sahara occidental.
Ah, merci.
Vous savez qu'il y a eu un grand changement, donc c'est l'année dernière, où le Premier ministre espagnol, M. Pedro Sanchez, qui a reçu une énorme claque électorale aux élections régionales il y a une quinzaine de jours maintenant, a dit que, alors, il a dit que c'était une proposition personnelle, qu'il avait dit ça, comme ça, à un micro, que, effectivement, le Maroc avait raison sur la question du Sahara occidental, et que, alors, en disant ça, il s'est simplement assis, là aussi, sur les positions des Nations Unies. Il a fait comme s'il ne savait pas. Alors, il savait très bien. Mais il a dit... Alors, on revient un peu sur la même attitude que par rapport à Israël. C'est-à-dire les gens qui disent « Ah ben, c'est plus possible, l'État palestinien, il a été mangé. » Bon, alors on peut dire aussi l'État du Sahara occidental, qui devrait être confondé par un référendum qui n'a toujours pas été organisé. On va finir par s'asseoir dessus, tout le monde l'oubliera, et puis on n'en parlera plus, et ce sera le Maroc. Bon, ben, c'est pas ça. Le droit international, ce n'est pas ça, M. Pedro Sanchez. Bon, il se trouve que ça a été très très mal vécu, vous imaginez où. Ça a été très bien vécu au Maroc, un peu plus de joie au Maroc, ça a été très mal vécu en Algérie. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont aujourd'hui réduites à quasiment zéro. Je veux dire, il y avait des relations de frontières et des relations économiques. On circule d'un pays à l'autre. Il n'y a presque pratiquement plus d'exportation d'un pays vers l'autre. La frontière est fermée. C'est ça qu'il faut voir. Bon. L'Algérie achetait beaucoup de produits en Espagne, elle n'achète plus à l'Espagne non plus.
Ouais.
Donc on a des sanctions économiques liées à cette prise de position politique. C'est-à-dire l'Algérie a toujours été très claire et très ferme. Les Sahraouis ont droit à leur référendum d'autodétermination. On les soutient dans ce but et on continuera à les soutenir aussi longtemps que nécessaire. Bon. Alors heureusement, l'Algérie se débrouille, elle achète plus en France et en Italie, un peu moins en Espagne, ça va, ça fait des heureux par ailleurs, mais on a une vraie cassure en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, sur la question du Sahara occidental. Et là encore, on est un peu comme dans la question palestinienne, mais à un degré moins violent et moins long historiquement, d'une position juridique des Nations Unies qui était correcte et qui n'est pas respectée ou qui tendrait à ne pas l'être. Là encore, on est au cœur de la crise à ce point. Et là, elle prend des aspects concrets très très nets sur le terrain, aussi bien donc en Espagne, où ça ne passe pas tout seul, qu'au Maroc. Alors le Maroc qui tombait très clairement entre les mains des intérêts israéliens sur à peu près toute son activité diplomatique, militaire, etc. Bon, ça, on a compris, mais ça fait partie du même jeu, disons. Et il y a des entreprises, nos belles entreprises françaises qui se font prendre, puisque récemment, je parle d'Orange, notre géant des télécommunications, s'est fait prendre puisqu'il a annoncé qu'il allait installer, faire des projets à un endroit qui se trouve être au Sahara espagnol, ex-espagnol. En Espagne, alors c'est la filiale d'Orange en Espagne qui annonce des projets sur le territoire de la République arabe sahraoui à venir. Bon. Voilà. Alors on a des multinationales françaises là, qui jouent à ce jeu-là, c'est-à-dire qui prennent le parti, se disent « Puisque maintenant Pedro Sanchez a dit que le Sahara, ça appartenait au Maroc, allons-y, nous, Orange Maroc, on investit au Sahara espagnol, ex-espagnol. Voilà. » Voilà, les multinationales suivent le vent, tant que ça leur profite. Et puis, je voulais faire... Oui, j'avais un petit... C'est pour faire plaisir. Oui, c'est pour faire plaisir à Roselyne. C'est pour les listes électorales en Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, ouais.
Alors, je te laisse raconter ou je raconte ? Alors, vous savez qu'il y aura, donc c'est à l'automne, des élections régionales en Côte d'Ivoire. Bon. Et on vient de découvrir, alors je ne suis pas ça au jour le jour, mais il y a des observateurs sur le terrain qui suivent ça, qu'il y avait une dame qui a eu 544 enfants qui ont tous des électeurs.
Et grand-mamie.
C'est grande-mamie. Alors c'est super-mamie, un record du monde. Elle a 92 ans, je crois. Ouais. Elle a encore eu deux...
Non, non, elle est née en 1900 et elle a eu son dernier enfant en 1992.
D'accord. Elle a eu le dernier enfant à 92 ans. Ah non, maintenant elle a 123 ans. Voilà. Bon, alors il y a quand même un gouvernement, des préfectures, un système électoral qui devrait fonctionner en Côte d'Ivoire, où on laisse s'inscrire sous la filiation de cette dame extraordinaire. C'est un monument. C'est mieux que Lucie, à la limite, les Beatles pourraient faire une chanson. C'est la dame qui a 544 enfants. Bon, eh bien, on a mis tous ces descendants, là, ces 544, sont sur les listes électorales. Ouais. Alors, ça devrait réagir. Alors, ça ne réagit pas suffisamment, parce que c'est assez pervers comme mécanisme. Ouais, parce que si vous dites ça en parlant à des amis comme ça dans la rue et tout, ils vont dire... Non, c'est même pire. Ils vont vous dire « Oh ben l'Afrique, c'est toujours le désordre, c'est toujours mal organisé, etc. » C'est-à-dire que les chefs d'État africains, puisque je dis le chef d'État africain qui organise cette mascarade, est en fait un chef d'État qui fait du mal à son propre pays et à l'Afrique, parce qu'il fait passer les Africains pour des tricheurs, pour des menteurs, pour des voyous. Oh, ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne veulent plus être. C'est ça qui est important à dire. Parce que qu'il ait essayé ça, alors dans d'autres cas, ce sera juste 3 ou 4 descendants qui ne seront pas des vrais ou des faux noms. Là, c'est tellement gros que ça va faire rire. Ça va faire rire, on va dire, ah ben, de toute façon, en Afrique, rien n'est sérieux. Tout finit par des chansons et des farces. Ce n'est pas vrai. Les gens qui veulent que ce pouvoir-là s'en aille, c'est les gens qui voudraient que le pays soit géré sérieusement. Pas par un affairiste, pas par un tricheur, pas par un voyou. C'est ça la question. Mais lui, au fond, se prête à ce jeu en disant « Moi, je me suis immensément enrichi, je vais continuer, hein, et je me moque des citoyens de mon pays.
»
Oui, là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les listes électorales pour faire ressortir toutes les fraudes.
Voilà.
Et il y en a déjà beaucoup. Et il va encore y en avoir d'autres.
Parti comme ça, ça va être énorme.
Puisqu'on est sur l'Afrique de l'Ouest, voudrais pas dire un petit mot sur le Sénégal ?
Si, on peut dire effectivement, Macky Sall, le président sortant, qui veut là aussi avoir un troisième mandat alors que c'est contraire à la Constitution, mais comme ça a déjà réussi en Côte d'Ivoire, pourquoi ne tentera-t-il pas sa chance ? Et en fait, il se trouve que l'opinion sénégalaise et la population sénégalaise a dit non très clairement. Et que donc il y a un personnage qui est le porteur d'une opposition à ce projet-là, hein, qui est pourchassé, qui est caché quelque part.
Il est en prison.
Oui, il a été... Non, il est plus en prison, non ?
Il est en prison.
S'il n'est pas en prison, il est assigné à résidence sans pouvoir en sortir, quelque chose comme ça.
Bon, mais de toute façon, là, ça ne se joue pas sur deux hommes, ça joue sur un sentiment de l'opinion sénégalaise très très large sur le fait que M. Macky Sall, ça suffit, hein, et que donc il faut respecter les règles une bonne fois pour toutes. Là aussi, ça fait partie de la façon dont l'Afrique se veut présentable, sérieuse, honnête, hein, et être gouvernée par des gens qui sont tous des tricheurs, et tout, des tricheurs là. Des tricheurs parce que la tricherie rapporte gros. C'est ça qu'il faut voir aussi, parce que ce sont
ils sont protégés.
Voilà, ce sont des gens qui sont corrompus, parce que quand il y a des gens corrompus, il y a des gens corrupteurs. Hein. Ouais. Vous imaginez, parce que imaginons que, je reprends l'exemple de Orange Maroc. Orange Maroc aussi bien a fait un petit cadeau au Palais Royal. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait une offre pour dire on va installer des téléphones sur le sol de la République sahraoui sans se renseigner. Hein. Et on a dû leur dire maintenant allez-y, Pedro Sanchez est d'accord, vous pouvez y aller. Hein. Et donc on a dû leur faire un petit cadeau. Hein. Voilà. Bon. Tout ça fait partie du système tel qu'il fonctionne. Orange est partout. Hein. Orange est la grande multinationale qui suit le colonialisme français, partout où le colonialisme français sévit. C'est ça qu'il faut dire aussi. Habib.
Non, on voudrait parler du président iranien qui a été en Amérique latine.
Oui, alors tout à fait. C'est vrai.
Important.
Oui, c'est vrai. Donc le président iranien fait une visite en Amérique latine, pas partout, mais il visite un certain nombre de pays avec qui il a de bonnes relations pour bien montrer que la doctrine Monroe, c'est-à-dire que ce n'est pas les États-Unis qui font la loi dans tous les pays d'Amérique latine, et que donc il a dans ces pays des amis. et qu'il va rencontrer, avec lequel, à l'occasion, il peut avoir des relations, et même il peut avoir des relations économiques, échanger du pétrole, échanger des informations, des techniques. Il faut savoir que l'Iran, aujourd'hui, ce n'est pas simplement un puits de pétrole, c'est une masse de savoir en matière de télécommunications, en matière de drones, en matière de balistique, très, très avancée.
Et ils investissent.
Voilà. Donc, ils ont beaucoup apporté. Ce n'est pas simplement un pays qui arrive avec ses barils de pétrole. Hein. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et ça, les gens qui veulent s'informer le savent. Et donc, les gouvernements du Venezuela, de la Bolivie et le troisième...
Cuba.
Et Cuba le reçoivent en pleine connaissance de cause. Hein. Donc, les amis sont là. Et les amis de l'Iran sont évidemment les ennemis que les États-Unis voudraient conserver sur le sol. Hein. Alors, vous savez que les États-Unis, par rapport au Venezuela, sont dans une attitude qui n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'opération Guaido, maintenant, n'est plus présentable. Ça ne sert plus à rien. Ils essayent, et j'ai évoqué ça sans développer la semaine dernière, ils essayent de trouver dans le parti au pouvoir des traîtres qui vont parler, enfin, la droite, disons la droite vénézuélienne, qui ne peut plus utiliser le cheval Guaido, est en train de passer par l'intérieur du parti présidentiel pour essayer de le faire basculer sur des prises de position politiques stupides. C'est en gros ça l'idée. Bon. Mais en disant que si on est gentil, en gros, l'idée, ce que disent ces gens-là, c'est si on est gentil avec les États-Unis, l'embargo sur le Venezuela des États-Unis va cesser. Alors, à mon avis, ils rêvent, parce que c'est pas comme ça que ça cesse dans le cadre d'un rapport de force. Mais on a là, la situation est là. Alors, c'est bien qu'effectivement, le gouvernement vénézuélien puisse s'appuyer aussi sur des amis qui pourront l'aider en matière de défense, en matière de télécommunications, et qui pourront, eux, se fichent absolument de l'embargo des États-Unis, et donc, puisqu'ils y sont déjà, donc, qui pourront l'aider dans des périodes difficiles qui sont pas impossibles. Hein. La situation vénézuélienne est assez délicate pour l'instant. Hein. Les États-Unis ne veulent rien lâcher. Bon. Dernière chose. Ça c'est une anecdote. Il y a un monsieur qui était ministre de la Justice en Moldavie, mais qui était un fonctionnaire, qui était un magistrat, qui vient de donner sa démission du gouvernement moldave. Et il a dit, alors je dis, une phrase suffira, je ne peux pas rester dans un gouvernement puisque c'est l'ambassade des États-Unis qui décide de tout.
Comme au Liban.
Exactement.
Comme voilà. Au Liban.
Ça, c'est la Moldavie. Ben, c'était pour rire deux secondes. Mais je vais finir sur Damas. Je vais finir sur Damas parce qu'il revient de Damas un personnage éminemment respectable, qui est un ancien ambassadeur de France, qui s'appelle Monsieur Rimbaud, Michel Rimbaud, qui a fait un très beau voyage. Alors, il a fait un article que vous pouvez trouver sur Arrêt sur Info, qui est un site d'information suisse remarquablement bien fait, qui s'appelle « Retour de Damas, bref de voyage ». Alors, il dit « J'y suis allé parce que ce pays a énormément souffert, il souffre encore ». C'est très très clair, mais il est en train de se sortir, c'est-à-dire il a survécu à ce qu'il appelle la pandémie révolutionnaire des printemps arabes avec un énorme guillemet. La Syrie a échappé à ça. Elle a été soumise donc à une intensification de la lutte soi-disant révolutionnaire, mais en fait de la lutte des djihadistes, de différentes obédiences financées par les monarchies arabes. Et ce pays s'en est sorti. Contre toute attente. Personne n'avait parié. Mais il faut savoir quand même que les criminels, ceux qui avaient décidé que le gouvernement et le régime, comme on dit, syrien, devaient tomber, sont au nombre de trois principaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Que les choses soient claires. Et quand M. Fabius disait « Al-Nosra fait du bon boulot », il disait qu'il faisait partie du contrat, hein, je parle en termes de contrat, c'est-à-dire comme chez les voyous, il y avait un contrat entre ces trois puissances, membres du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pour renverser le régime de Bachar el-Assad.
Bon. Préparer le cercueil.
Et oui, il y avait tout y était. Ça a échoué, ça y est, diplomatiquement, disons, le tournant est pris, c'est-à-dire que la Syrie est re-rentrée dans la Ligue arabe, elle est re-rentrée dans le monde arabe, et des personnages comme Michel Rimbaud, que je salue, mais qui a toujours beaucoup soutenu le Liban. Alors, j'explique pourquoi Michel Rimbaud. Alors, cet ambassadeur, qui était Et il le dirait lui-même, et je ne dis pas ça du tout pour minoriser, au contraire. Il disait, j'étais un petit ambassadeur. Vous savez, quand on est ambassadeur, on est fonctionnaire de la République française, mais il y a des ambassadeurs qui vont dans les grands pays où on fait des belles carrières, où on voit du beau monde et tout. Alors, c'est les postes à Londres, à Washington, etc. Et puis, il y a ceux qu'on envoie, parce que la France a quand même une représentation diplomatique assez étoffée dans l'ensemble de la planète, ceux qu'on envoie dans des pays qui n'intéressent pas grand monde. Hein. Et lui, il a été ambassadeur au Soudan. Alors il est arabophone, il a beaucoup appris en étant au Soudan, ouais. Et puis maintenant il continue, et il a beaucoup écrit là-dessus, il continue à s'intéresser à l'avenir de ces pays arabes et à la façon dont l'Occident les traite. Donc c'est pour ça qu'il dit, moi quand je viens à Damas, et il en revient, je vois ce qui s'est passé, je vois à quoi la Syrie a échappé, et je rends hommage à cette Syrie, parce que cette Syrie, à l'inverse de la monarchie de Riyad ou d'autres, c'est un pays qui vient de très très loin, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu casser l'histoire. Hein. L'histoire, je rappelle, hein, c'est les premiers chrétiens, c'est les Omeyyades, c'est les Abbassides, c'est tout ça qui s'est passé en Syrie. La Syrie est un territoire. Alors, je parlais de la Palestine qui existe depuis le siècle.
Ça fait partie de la Syrie.
Oui, la Palestine, c'est un territoire. Mais enfin, la Syrie, ça existe depuis le début des trois monothéismes. Ouais. Hein. Bon, donc c'est ça, et là, ça c'est beaucoup plus difficile. Alors on peut casser des monuments à Palmyre, on peut saccager ici et là, on peut appauvrir une population, ce qui a été le cas. On ne peut pas rayer 25 siècles d'histoire qui font partie de l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est très important, et c'est ça qui est en train de se passer, et c'est un phénomène que je salue parce qu'il me réjouit. Voilà. Merci, voilà. Merci de votre attention. Merci, Roselyne.
Merci, Roselyne.
Et demain soir, on se retrouve pour parler des Balkans dans l'émission spéciale Les Balkans et l'OTAN.